Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré au programme DEMAT-ADS, le programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme, puisque trois mois après l'échéance réglementaire du 1er janvier 2022, celle que tout le monde attendait, vous posez encore, collectivité, des questions. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons en faire le tour, nous allons y répondre, et notamment où en est-on, tout simplement, de la dématérialisation, quelles étapes ont été franchises. Nous parlerons également de la fameuse SVE, la saisine par voie électronique. Quelles questions se posent depuis sa mise en application, qui, je vous le rappelle, concerne 100% des communes. On va en parler avec, évidemment, celle qui est toujours à mes côtés. Bonjour Michel Phelep.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme, des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et avec vous, Michel, en fin d'émission, nous répondrons aux questions que nos auditeurs vont poser à notre invité du jour, le directeur du programme DEMAT-ADS. Et non, ce n'est pas Jean-Baptiste Lannes, puisque je suis ravie ce matin d'accueillir le nouveau directeur du programme. Bonjour Jean-Michel Coste.
Bonjour Johanna.
Ravi de vous accueillir. Alors, je précise quand même que ce n'est pas votre premier MAG de l'urbanisme, puisque vous étiez déjà venu avec Jean-Baptiste Lannes nous parler de ce programme.
Tout à fait.
Et maintenant, vous faites votre retour en tant que directeur du programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols. Et vous êtes toujours au sein de la direction en charge de l'urbanisme, des mêmes ministères que Michel. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Trois mois déjà, depuis le 1er janvier 2022 et la mise en application des décrets SVE et loi Élan. Notre émission d'aujourd'hui va être consacrée aux questions les plus posées par les collectivités afin de vous apporter des réponses très concrètes pour continuer à vous accompagner dans le déploiement de la dématérialisation. Juste avant cela, Jean-Michel Coste, je le disais, première émission en tant que directeur de ce programme DEMAT-ADS, un programme que vous ne découvrez pas puisque vous y travaillez depuis longtemps. Quelle est votre note d'ambiance? C'était une habitude qu'on avait avec Jean-Baptiste Lannes concernant ce programme et depuis que vous avez pris vos fonctions.
Alors, nous sommes à un moment important en fait, pour le programme DEMAT-ADS ou permis de construire en ligne. Comme nous le verrons par la suite, l'écosystème qui permet le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme monte progressivement en charge et les différents acteurs en fait, prennent conscience des apports de la dématérialisation. Et nous devons nous assurer de la pleine montée en puissance de cet écosystème dans de bonnes conditions. Même si l'échéance, comme vous l'avez dit, est derrière nous, on a encore beaucoup de travail pour que la dématérialisation devienne une réalité dans nos territoires.
C'est bien de rappeler que ce n'est pas parce que le 1er janvier 2022 est passé que tout va s'arrêter, que tout est en place. Il reste encore du travail. Alors on va aborder une des nombreuses questions qui vont rythmer notre émission aujourd'hui. Une première question plutôt large. Où en est-on de cette dématérialisation sur le territoire?
Alors on va parler chiffres. Donc les derniers chiffres sont plutôt satisfaisants et révélateurs de l'effort accompli et collectif. On a fait un sondage auprès de nos services déconcentrés. On estime que 70% des communes disposeraient d'un dispositif de saisine par voie électronique. Elles n'étaient que 50% début janvier. Et la moitié des centres instructeurs sont raccordés à plateau pour recevoir et transmettre des dossiers, ce qui représente 80% de la population. Et concernant les services consultés, on a 1100 services consultés qui sont enrôlés dans Plateau et près de 4600 consultations qui ont été réalisées via Plateau. Donc c'est un bon indicateur puisque ça montre que la dématérialisation prend tout son sens quand on dématérialise la chaîne de bout en bout. Dernier chiffre important, 64 000 dossiers circulent aujourd'hui via Plateau, c'est 4 fois plus que début janvier.
Alors, ce sont plutôt des bons chiffres, il y a de quoi être satisfait. Toutefois, je vais rebondir sur ce dernier chiffre qui concerne Plateau. C'est une question qui vous a été beaucoup posée ces dernières semaines, puisque Plateau a rencontré un incident technique avec des dossiers qui ne circulaient plus, alors que c'est pourtant le cœur de cette dématérialisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela?
Alors, merci déjà pour cette question. Effectivement, on a rencontré un incident technique et il est important pour moi de communiquer en toute transparence vis-à-vis des auditeurs. Premièrement, je vais revenir sur les causes de cet incident. Comme vous l'avez rappelé, Plateau, c'est le cœur du système de la dématérialisation, puisque c'est via Plateau que s'échangent les dossiers. Ce n'est pas un outil métier, c'est une plateforme d'échange des flux et des données entre des solutions métiers différentes, sachant que chaque commune est libre de choisir sa solution sur le marché. Entre ces solutions métiers et Plateau, les flux passent par des interfaces de programmation d'applications, ce qu'on appelle des API dans le jargon technique. Et selon les choix des éditeurs, soit les éditeurs transmettent en temps réel les dossiers, soit ils font des envois groupés et programmés par paquet. Et c'est ce deuxième cas qui a posé un incident technique, créant un goulot d'étranglement du système. Donc ça, c'était les causes. Maintenant, je vais vous parler pourquoi en fait c'est intervenu. Tout simplement parce que ces API ont une capacité à traiter un certain nombre de dossiers. Troisièmement, est-ce que ça veut dire que Plateau n'est pas capable d'absorber un grand nombre de dossiers? La réponse est évidemment non. L'incident a d'ailleurs pu rapidement être résolu et nous allons pouvoir désormais l'anticiper. Alors, cet incident nous amène à deux réflexions. La première, c'est que nous allons rencontrer probablement d'autres difficultés. Ce n'est pas propre au programme permis de construire en ligne. Hein. C'est le lot de tous les projets informatiques. Il y a parfois des problèmes techniques plus ou moins complexes et nous allons apprendre à les gérer en essayant de les anticiper au maximum pour limiter l'impact pour les utilisateurs. Deuxièmement, nous sommes en train de réfléchir à des nouvelles modalités de communication et à un plan de continuité de l'activité pour gérer en fait ces périodes de crise. Il est important d'informer rapidement les utilisateurs d'une seule et même voix avec les autres partenaires interministériels. Et il faut préserver au maximum la continuité de l'activité pendant ces événements.
Et on ajoutera que même en papier, il peut y avoir des soucis puisque les dossiers peuvent se perdre en route. Donc aucun système n'est infaillible. Merci Jean-Michel en tout cas pour ces précisions. On va maintenant passer à la SVE, la fameuse saisine par voie électronique sur laquelle nous avons reçu beaucoup de questions. C'est un dispositif, hein, on l'a dit, qui concerne 100% des communes, les grandes comme les plus petites. Alors quels sont les risques pour les communes qui n'auraient pas encore déployé la SVE? On a dit plus de 70%, hein, c'est ça?
Oui. Alors tout d'abord, je vais rappeler une nouvelle fois que la SVE, c'est un droit qui est générique, hein, qui s'applique à d'autres types de démarches, pas que aux demandes d'application du droit des sols. Une commune qui n'aurait pas mis encore de dispositif de saisine par voie électronique s'expose au risque majeur en fait, des décisions tacites, c'est-à-dire de voir autoriser sur son territoire des projets de construction et d'aménagement sans véritablement avoir eu la possibilité de les instruire. Effectivement, si une commune ne propose pas en fait de modalité de saisie par voie électronique, l'envoi d'un simple mail à un agent de la commune peut être considéré comme une saisine électronique légale et recevable. Et donc, ça fait partir le délai d'instruction. Il est donc vraiment indispensable que toutes les communes proposent un moyen d'être saisies électroniquement et qu'elles communiquent aussi sur ce dispositif. C'est important, hein. C'est une condition aussi pour que la commune puisse dire aux usagers, voilà, c'est la seule modalité pour moi de recevoir des demandes d'autorisation d'urbanisme et du coup, il y aura un seul canal unique. Et je le disais en introduction, aujourd'hui, on estime qu'on a 70% des communes qui sont équipées. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, on les encourage à se connecter à notre plateforme collaborative Osmose, où se trouvent de nombreuses ressources permettant de répondre à des situations assez particulières. Il y a par exemple un Vademecum SVE, qui fait partie des documents socles, qui revient en fait sur les grands principes communs à toutes les communes et précise aussi les cas particuliers, dans des fiches pratiques pédagogiques. Et aujourd'hui, on a aussi d'autres documents sur Osmose et un moyen de rechercher rapidement de l'information en utilisant la barre recherche, en tapant par exemple SVE ou signature électronique, on peut accéder rapidement aux documents de référence et aux réponses aux questions déjà posées.
On va continuer avec la SVE, Jean-Michel. Comment traiter les demandes qui arrivent par mail dans les communes lorsqu'elles bénéficient d'un centre instructeur mutualisé au niveau de l'EPCI qui a développé déjà un téléservice?
Alors, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'un téléservice a été mis en place dans un centre instructeur, il peut très bien devenir le dispositif SVE commun pour toutes les communes. À partir du moment où la publicité de ce dispositif est faite au niveau de l'intercommunalité et au niveau de chaque commune, toutes les démarches effectuées par d'autres moyens peuvent être considérées comme irrecevables. C'est ce que précise le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA.
Toujours pour les communes qui bénéficient d'un centre instructeur mutualisé, est-ce que la dématérialisation oblige à recevoir les conventions qui lient les deux parties ?
Alors, effectivement, les conventions doivent être mises à jour. Il ne s'agit pas de les réécrire de bout en bout, mais un simple avenant peut être rédigé et annexé à la convention pour intégrer les spécificités liées à la dématérialisation. Sur ce point, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur Osmose, donc notre plateforme, se trouvent des conventions et on pourra trouver des documents qui précisent les dimensions à prendre en compte selon les cas particuliers.
Alors, on vient de l'évoquer, le moyen de saisine par voie électronique peut être un téléservice dans certains cas, avec la capacité pour les usagers de déposer directement en ligne leur dossier via une plateforme dédiée. Mais certaines communes ont fait le choix de mettre à disposition une simple adresse courriel pour recevoir les demandes. En revanche, les dossiers volumineux dépassent parfois les capacités d'envoi par mail. Est-ce que les usagers, dans ce cas, peuvent transmettre leurs demandes via une plateforme type WeTransfer ou Smash ?
Alors, d'un point de vue purement légal, rien n'interdit expressément l'utilisation de plateformes de partage de dossiers comme WeTransfer. En revanche, cet usage n'est pas recommandé, puisqu'il remet en cause deux dispositions qui sont prévues dans le CRPA, le Code des relations entre le public et l'administration. D'une part, l'utilisation en fait, du droit de saisir par voie électronique est conditionnée à l'identification de l'usager auprès d'administration. À ce titre, l'usager doit indiquer dans son envoi son nom, prénom, adresse postale et électronique. L'envoi par une plateforme de partage ne permet pas de répondre à cette obligation. D'autre part, tout envoi doit faire l'objet d'un accusé de réception électronique, voire d'un accusé d'enregistrement électronique. Et encore une fois, l'envoi d'une demande via une plateforme de partage ne permet pas d'accuser réception de la demande à la personne à qui a été effectué le dépôt.
Et puisqu'on parle de la relation de l'administration aux usagers, certaines communes ont pu observer que la dématérialisation ne permettait pas forcément de garantir la qualité des dossiers. Il arrive que certaines demandes, notamment les formulaires CERFA, soient mal remplies ou alors comportent des erreurs. Comment est-ce qu'on peut gérer ces demandes ?
Alors, de la même manière que ça arrivait avec le papier. C'est vrai que la dématérialisation ne garantit pas que les dossiers soient de meilleure qualité. Il faut rappeler que la chaîne de l'instruction elle reste inchangée. Les dossiers suivent le même processus d'instruction et les mêmes étapes, qu'ils soient déposés numériquement ou directement auprès des services de la mairie en version papier. Donc, une demande qui sera déposée incomplète ou avec des erreurs sera renvoyée vers le pétitionnaire pour être corrigée avant d'être intégrée à nouveau dans la chaîne d'instruction. L'avantage, c'est qu'on gagne en fluidité entre le pétitionnaire et l'administration. En revanche, il existe des outils qui permettent d'être guidé dans la constitution de son dossier pour faciliter la saisie, notamment des fameux CERFA qui sont évidemment, on peut considérer comme complexes. L'outil incontournable pour la saisie des demandes, c'est ADO. ADO se trouve en fait sur le site servicepublic.fr. C'est un portail qui permet de guider le pétitionnaire pour constituer sa demande en ligne. Il est guidé, il y a des infobulles avec certains champs qui sont en complétion automatique. Une fois que le CERFA est rempli, le pétitionnaire accède à la liste en fait, des pièces justificatives qu'il doit fournir. Ce qui lui permet de mieux savoir quelles sont les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. En général, on dépose un permis de construire une fois dans sa vie. C'est donc une démarche qui n'est pas forcément simple. C'est pour ça que l'objectif de la plateforme ADO, c'est de faciliter la constitution de ce dossier. En revanche, ADO est une plateforme qui permet de constituer son dossier, mais pas forcément de le déposer. Les pétitionnaires en fait, pourront le déposer en ligne si la commune a fait le choix d'être raccordée à ADO. Aujourd'hui, la majorité des communes ne sont pas encore raccordées à ADO et souvent, elles proposent d'autres modèles en fait, de système de saisine par voie électronique. Concrètement, ça veut dire qu'il est possible de constituer son dossier et de le télécharger, les pièces, et de récupérer son dossier via Ado, de disposer d'une version numérique pour le déposer sur le portail ou les envoyer par mail selon le dispositif que la commune a mis en place. Et les CERFA sont régulièrement actualisés dans une logique d'amélioration continue. Et la dernière version des CERFA, qui a été mise en ligne il y a quelques jours, permet l'enregistrement en ligne de documents complétés par le pétitionnaire. Alors, je rajouterai juste un point important. En tant qu'usager, le plus important, c'est déjà de se rendre sur le site internet de sa commune pour savoir quelle est la modalité de dépôt par voie électronique.
On a également souvent rappelé dans cette émission que les obligations des lois SVE et ELAN s'appliquent aux communes, mais n'empêchent pas les pétitionnaires de déposer leur dossier en version papier. Est-ce que cela implique que les dossiers déposés en version papier doivent automatiquement être numérisés par les communes ?
Non, rien n'oblige les communes à numériser les dossiers. Plus précisément, elles ont deux options. Soit la commune décide de numériser les dossiers papier, pour qu'ils intègrent la chaîne d'instruction dématérialisée. Elles définissent alors à qui appartient cette charge de numériser. Soit elles décident de ne pas numériser. Elle va donc gérer un double flux, un flux papier et un flux numérique. En tout cas, il n'y a pas d'obligation réglementaire sur la numérisation.
Donc elles ne peuvent pas imposer à un utilisateur, à un pétitionnaire, de déposer un dossier numérique.
Non, évidemment, le pétitionnaire a toujours le choix de faire un dépôt papier ou d'utiliser le portail SVE que la commune a mis à sa disposition.
Merci Jean-Michel pour toutes ces précisions concernant la SVE. Alors on a parlé de cette saisine par voie électronique, on a parlé des modalités de dépôt des demandes par les pétitionnaires. On va maintenant parler de la chaîne d'instruction une fois que le dossier a été jugé recevable et circule de la mairie au service consultable. Une première question sur ces services consultables. Est-ce que le ministère a développé un outil qui permet aux services consultables de rendre un avis en ligne pour les demandes numériques? C'est la plateforme Aviso. Est-ce que ce service fonctionne et est-ce qu'il est utilisé?
Alors effectivement, on a développé Aviso pour que certains services consultés puissent récupérer un dossier en ligne sans avoir à s'équiper elles-mêmes d'un outil. L'intérêt d'Aviso, c'est qu'il est raccordé à Plateau, à la plateforme d'échange et de partage des dossiers, qui permet que les avis intègrent directement, les avis rendus par ces services consultés, intègrent directement la chaîne d'instruction dématérialisée. Aujourd'hui, de nombreuses commissions ont décidé d'utiliser Aviso, puisque près de 800 consultations ont déjà été réalisées sur cet outil. Bon, c'est pas un chiffre énorme, mais comme je l'ai déjà dit en introduction, on est en train de monter en charge, et les chiffres sont plutôt encourageants. D'autres services consultés ont fait le choix de développer leurs propres outils et de leur accorder à Plateau. C'est par exemple le cas du ministère de la Culture. Ce sont d'ailleurs les unités départementales de l'architecture et du patrimoine qui actuellement sont le plus consultées par voie dématérialisée.
Alors justement, puisqu'on aborde cette possibilité pour un service consultable de raccorder son propre outil à Plateau, est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes solutions possibles et sur les conditions dans lesquelles Aviso est recommandé à un service ?
Alors, effectivement, il existe trois solutions de dématérialisation pour les consultations. La première, la plus simple, c'est de raccorder son outil métier directement à Plateau. Ça va permettre en fait de conserver la logique en fait de son propre outil métier et d'avoir les échanges de flux à travers cet outil métier. Ensuite, dans le cas où un service consulté n'a pas son propre outil, Aviso apparaît comme une solution facile à mettre en œuvre. Aviso peut être une solution aussi temporaire, dans le sens où si un service n'a pas encore la possibilité de raccorder son propre outil métier, il peut utiliser Aviso. Il faut quand même rappeler que Aviso, c'est un outil générique en fait, hein, donc qui va offrir moins de fonctionnalités qu'un logiciel métier et qu'il est peu recommandé aux services traitant un grand nombre de consultations. Enfin, dernier cas de figure possible, dans le cas où le service consultable appartient à la même organisation que le service instructeur, il pourra utiliser directement l'outil métier du service instructeur.
Ça veut dire donc qu'un service peut utiliser Aviso de façon temporaire ?
Oui, c'est bien le cas en fait. Aviso peut être utilisé en fait en attendant les développements de son propre outil. Et une fois qu'on est enrôlé dans Aviso, on peut basculer de manière sans changer, sans faire beaucoup de manipulations techniques, directement sur l'outil métier raccordé à Plateau. C'est un processus de bascule qui est relativement simple et qui permet toute interruption de service pendant la transition.
On va continuer maintenant à poursuivre sur cette chaîne, si vous le voulez bien, Jean-Michel. Une fois le processus d'instruction achevé, il y a le contrôle de légalité par le préfet, qui est un sujet qui reste une préoccupation des communes, notamment dans le raccordement de Plateau à la plateforme ACT. Où en est-on sur ce point ?
Alors effectivement, Johanna, une fois le processus d'instruction achevé, le circuit de matérialisation ne s'arrête pas là. Plateau continue à jouer son rôle d'interface et la plateforme est raccordée à l'application ACT qui est utilisée par les services en charge du contrôle de légalité. Cette interface permet en fait de gagner du temps pour les communes qui peuvent désormais dématérialiser l'instruction et la transmission via un circuit unique et simplifié qui leur évite d'avoir à rematérialiser les dossiers ou à devoir effectuer des opérations redondantes qui sont autant de risques d'erreurs à la ressaisie d'informations. Elles font en fait cette transmission directement à partir de leur outil métier. Concrètement, à l'issue de la phase d'instruction, une fois que l'acte a été déposé sur Plateau, une fonctionnalité dans leur système d'information leur permettra à ces communes de télétransmettre directement au préfet. Plateau met alors à la disposition de l'application ACT les éléments qui seront présentés au préfet dans les conditions habituelles. Alors, les communes sont invitées à se rapprocher des préfectures pour obtenir toute information sur la procédure administrative à réaliser afin d'accompagner le raccordement. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la commune doit disposer de la bonne version de son outil métier pour effectuer cette transmission par voie dématérialisée. Autre point de précision, il s'agit du raccordement de la version 1 de l'application ACT.
Merci Jean-Michel pour toutes ces précisions. Alors avant de donner la parole à nos auditeurs et de répondre à leurs questions avec Michel, je vous propose de compléter votre propos et d'écouter l'interview de Jean-Michel Perret. Il est maire de Saint-Hilaire-de-Brettemas, c'est dans le Gard, et il est le représentant de l'APVF, c'est l'Association des Petites Villes de France. Il nous parle de tous ces sujets liés à DMAT ADS. On l'écoute, on revient juste après. Bonjour Jean-Michel Perret.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association qui est l'APVF, l'Association des Petites Villes de France, et nous expliquer quels sont ses objectifs et qui sont ses adhérents ?
Alors l'Association des Petites Villes de France est une association qui regroupe les communes de 2500 à 25 000 habitants. Elle est présente un petit peu partout en France. On a plus de 1200 communes adhérentes et donc elle est là surtout pour relayer les problématiques que peuvent avoir des communes de notre strate auprès du gouvernement d'une manière générale, des gouvernements même je dirais.
Donc ces adhérents, ce sont comme vous, des maires de petites villes ?
Tout à fait. Ma commune, elle, fait 4600 habitants. Donc je suis bien dans la moyenne, entre guillemets, de la PVF. Donc c'est des communes, effectivement, qui ont des problématiques, on va dire, souvent urbaines, mais pas que. Ou alors des problématiques de centralité, de pôle de centralité, que ce soit cantonal ou même plus, quelques sous-préfectures aussi, et préfectures d'ailleurs pour certaines. Donc nous avons pas les problématiques des très grandes villes, pas celles non plus des petites communes rurales, mais on va dire avec des populations qui sont souvent en attente de services publics et pour ce qui nous concerne en tout cas, des moyens qui malheureusement sont trop souvent limités.
Quelle est la participation de la PVF au sein du programme de transformation numérique des territoires et quelles réalisations concrètes avez-vous déjà contribué à réaliser ?
Alors, la PVF est présente d'une manière générale, elle a été conviée effectivement dans tous les ateliers de travail concernant les différentes mises en numérique, on va dire, de services publics. Et pour ce qui me concerne, moi en tout cas, j'ai été associé donc à l'élaboration de la dématérialisation des actes d'urbanisme. Et d'ailleurs, ça s'est vraiment très très bien passé, on a été écoutés. Et je remercie encore d'ailleurs Monsieur Lalme qui s'est occupé pour le ministère justement de cette transition numérique pour l'instruction des autorisations d'urbanisme.
En tant que maire et représentant de l'Association des petites villes de France, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à vos collègues qui souhaitent eux aussi se lancer dans cette dématérialisation des autorisations d'urbanisme ?
Alors, le conseil que je pourrais donner, d'abord, c'est de dépassionner éventuellement les craintes qu'on pourrait avoir à travers, on va dire, une interface informatique numérique et de pas hésiter à y aller parce que ça offre énormément d'avantages et notamment d'ailleurs dans le cours de l'instruction des autorisations d'urbanisme, ça offre l'avantage de pouvoir être de tout déposer sur une plateforme pour les autorisations, notamment des concessionnaires. Ou délégataires de services publics comme Enedis, comme les services d'eau, d'assainissement, etc. Donc c'est quand même une plateforme qui est vraiment pratique à utiliser. Alors elle n'est pas pour l'instant, tous les concessionnaires en France n'ont pas forcément rejoint cette plateforme. Ça va se faire dans le temps et c'est vraiment une grande souplesse d'utilisation et vraiment si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à passer le cap parce que ce n'est pas très compliqué. Les DDTM sont là aussi pour épauler les élus, pour accompagner les services instructeurs. Et à ce niveau-là, ça se passe vraiment très très bien.
Merci Jean-Michel Perret pour toutes ces précisions. Merci. Voilà pour l'interview de Jean-Michel Perret, maire de Saint-Hilaire-de-Brethmasse, c'est dans le Gard, et représentant de l'association des petites villes de France. On va maintenant pouvoir rester avec vous, Jean-Michel Coste, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Avec vous, Michel.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et comme à chaque fois, Michel, je me tourne vers vous alors que le plateau tombe en miettes pour répondre aux questions de nos auditeurs. Il y a des matins comme ça.
Oui, c'est la journée. Donc, on va prendre une première question de Cyril. Est-ce que le raccordement à acte permet le retour de l'accusé de réception vers la collectivité ?
Alors, comme je l'ai expliqué, hein, c'est la version 1 d'acte qui est raccordé pour l'instant à plateau et le retour se fait par mail pour l'instant. Une prochaine version d'acte va être raccordée à plateau, je pense que ça sera fin avril et grâce à cette nouvelle version, on aura l'accusé réception qui reviendra directement dans l'outil métier de l'instructeur. Donc ça sera beaucoup plus simple, il n'aura pas à gérer d'un côté la transmission à travers son outil et de gérer l'accusé réception par une boîte mail.
Donc super, donc ce sera prêt fin avril pour notre prochaine émission sur le sujet des MATADS.
Oui.
Et alors deuxième question sur l'archivage, est-ce que les dossiers sont archivés sur plateau ?
Alors ça c'est une ambiguïté, il faut bien comprendre que plateau c'est une plateforme de partage et d'échange des dossiers, il ne joue pas le rôle de système d'archivage électronique. Chaque collectivité, c'est en application du code du patrimoine, a la responsabilité d'archiver en fait ces dossiers. C'est la même chose en version numérique. Donc chaque collectivité doit réfléchir à un système d'archivage électronique.
Eh bien voilà, je crois que...
Eh bien parfait, c'est que Jean-Michel, vous avez été très complet tout au long de votre exposé. De toute façon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à des MATADS pour répondre à d'autres questions. Le temps de vous remercier, Michel Felep, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et de vous remercier également, Jean-Michel Coste, pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes... le directeur du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols, dit programme DEMAT ADS, au sein des mêmes ministères de la direction en charge de l'urbanisme. Merci à tous les deux, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. En attendant, vous pouvez retrouver tous les précédents numéros, ainsi que ceux consacrés à ce programme DEMAT ADS, à la SVE, à toute la suite de logiciels, enfin vous avez tout. C'est très complet sur notre site radioterritoria.fr, sur notre appli du même nom et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.